Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, c'est Biotine, juste après l'émission Vibre SOS sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9, sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, et puis bien sûr partout dans le monde, grâce à internet, graphite.net, avec aussi la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de cette émission. Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, avec la rediffusion bien sûr aussi de cette émission le mardi matin à 10h, donc vous êtes peut-être soit en train de prendre votre petit déjeuner, soit en train de déjeuner. Dans tous les cas, bon appétit à vous. Nous sommes le 13 avril. 13 avril, il n'y a pas de journée internationale. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une journée internationale. Et le 13 avril, il n'y en a pas pour l'instant. Et dans l'éphéméride, eh bien, en 1970, le 13 avril, l'explosion du réservoir d'oxygène du module de service de la mission Apollo 13, bien sûr. C'était en 70. Toujours dans l'éphéméride, si on s'intéresse aux naissances, eh bien Antonio Muzzi est né le 13 avril 1808 en Toscane. C'est un inventeur italo-américain, notamment connu pour sa contribution à l'invention du téléphone. Quoique, c'est controversé, on va savoir pourquoi. Antonio Muzzi, en fait, il étudia la mécanique avant de travailler comme technicien dans différents théâtres jusqu'en 1835, l'année où il va déménager à Cuba pour continuer dans le théâtre. Il va inventer une méthode pour galvaniser le métal que va utiliser à l'époque l'armée à Cuba. Il va travailler aussi durant 10 ans sur une méthode efficace de traitement de certaines maladies par électrochoc. Puis en 1849, il va imaginer les bases du téléphone et il va développer un prototype dont rien n'indique cependant qu'il fonctionnait. Il part en 1850 à New York pour essayer de promouvoir ses inventions sans grand succès. Et c'est au cours de ces années qu'il va construire son prototype de téléphone qu'il va appeler le Teletelefono. Et le 12 décembre 1871, il va fonder la Teletelefono Company avec 3 associés. Et le 28 décembre 1871, il va protéger son invention par ce qu'on appelle un avertissement de brevet. C'est une formule renouvelable, un peu plus économique en fait qu'un vrai brevet. En 1874, il serait entré en contact avec la compagnie Western Union dans l'espoir de voir son prototype développé et commercialisé, mais la compagnie ne va pas donner suite. Et 2 ans plus tard, on est en 1876, c'est cette fois Graham Bell qui va déposer son propre brevet, et donc il est convaincu de s'être fait voler son invention. Muzzi va intenter un procès qui va durer jusqu'en 1889, date à laquelle la mort d'Antonio Muzzi met fin aux procédures sans que la paternité de l'invention du téléphone lui soit reconnue. Et donc du coup on connaît le nom de Bell en tant qu'inventeur du téléphone, mais il y aurait peut-être aussi, mais on n'en sait rien parce que finalement ça n'a jamais été jugé, le nom de Antonio Muzzi, qui est donc né le 13 avril 1808. Toujours dans l'éphéméride, on va évoquer la mort le 13 avril 1941 à Cambridge de l'astronome américaine Annie Cannon. Elle étudie au Wesley College. Elle est diplômée en physique et en astronomie en 1884. Elle devient experte en photographie, une discipline qui est alors toute récente. Elle voyage en Europe pour prendre des photos. En 1896, elle participe aux premières expériences sur les rayons X dans son pays. À Harvard, elle devient bientôt une experte mondiale en classification des étoiles grâce à sa mémoire visuelle, sa patience, son organisation. En effet, entre les années 1911 et 1915, elle classe environ 5000 étoiles par mois, et pour maintenir un tel rythme, elle examine les plaques photographiques, elle identifie le type spectral de chaque étoile, elle dicte sous forme de code alphabétique à un assistant qui va consigner la valeur dans un carnet, et en se basant justement sur une classification existante, Annie Cannon développe un système de classification des différents types de spectres qui est à la base de la classification qui est toujours utilisée pour désigner les types spectraux des étoiles. Donc cette astronome américaine a mis en place un processus de classification qui est encore en cours actuellement. Elle est morte le 13 avril 1941 à Cambridge et elle s'appelait Annie Cannon. canon. C'est donc l'éphéméride de cette émission. C'est toujours intéressant, je trouve, en fait, de s'intéresser. Il va falloir que je développe un peu plus mes phrases au niveau du vocabulaire. En tout cas, c'est toujours intéressant de suivre le parcours de ces scientifiques dont les noms ne sont pas parvenus encore jusqu'à maintenant, mais qui ont eu un vrai impact dans différentes disciplines scientifiques. Et cette éphéméride nous permet justement de pouvoir peut nous intéresser d'une façon un petit peu plus approfondie au parcours, à la vie de ces différents scientifiques. 2019 est également, vous le savez si vous êtes fidèle de cette émission depuis janvier, l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Donc l'idée c'est de pouvoir classifier les éléments chimiques et avec l'idée un petit peu de susciter des vocations dans les filières chimiques et de se dire que la chimie est vraiment au cœur de notre environnement, eh bien l'ONU a décidé de consacrer cette année 2019 au tableau périodique des éléments, ce fameux tableau qu'on avait dans nos salles de classe. Et donc toutes les semaines dans cette émission, en début d'émission, nous remplissons tous ensemble une petite case de ce tableau. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'iode. L'iode qui est un solide à température et à pression ambiante. La concentration en iode dans notre organisme est directement reliée au bon fonctionnement, bien sûr, de la glande thyroïde, bien évidemment. Une carence sévère peut provoquer une maladie qui était très répandu au 19e siècle, qu'on appelait le crétinisme. Le manque d'iode provoque des troubles physiques et un retard du développement mental. Si on dissout dans l'alcool l'iode, eh bien c'est un excellent désinfectant. C'est une utilisation principale qui reste en tant qu'agent de contraste pour les scanners médicaux, notamment. Plongé dans de l'eau contenant des ions iodures, eh bien l'iode va pouvoir former ensuite d'autres éléments qui vont se colorer en bleu au contact de l'amidon. Ça permet donc de détecter des faux billets, par exemple, qui sont imprimés sur du papier classique qui contient lui de l'amidon, et ça permet, c'est ça qui est intéressant, parce que il va se colorier en bleu au contact de l'amidon qui est présent dans du papier classique. Donc voilà, l'iode est aussi utilisé pour détecter les faux billets, pourquoi pas. Les huîtres, eh bien, elles sont les aliments les plus riches en iode. Si vous mangez une demi-douzaine d'huîtres, eh bien vous aurez ingurgité à peu près la moitié des apports en iode recommandés chaque jour. Donc mangeons tous ensemble une demi-douzaine d'huîtres par jour. C'est tellement simple et tellement efficace. C'est Bernard Courtois qui a découvert en 1811 l'iode. Et il va le nommer d'après le grec iodes, qui signifie violet. Il le découvrit en ajoutant de l'acide sulfurique à de la cendre d'algues, ce qui dégage des vapeurs violettes, dont le nom violet, donc iode en grec, c'est ce qui a donné le nom à cet élément. Ils sont nécessaires à la vie, les ions iodures, mais l'iode en lui-même, l'iode dans sa consistance principale, reste toutefois toxique. Son symbole chimique, c'est le I majuscule, tout seul, tout court, donc il n'y a pas à tortiller. Le numéro atomique, c'est le 53, et donc nous avons tous ensemble rempli la case 53 de ce tableau périodique des éléments. Dans cette émission, on va parler de choses. Autant l'émission de la semaine dernière, était quand même un petit peu lourde, autant là, on va parler du sommeil, on va parler du Viagra, on va parler de la cigarette électronique, et entre autres. Et puis on va essayer de pouvoir détruire des astéroïdes comme Bruce Willis. On va également aussi s'intéresser à ce que prédit Bill Gates comme étant les 10 innovations qui vont changer le monde, qui vont changer notre monde. C'est le sommaire de cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite, une émission de science, une émission aussi de musique. C'est pour ça qu'on écoute un titre et on se retrouve juste après pour commencer à feuilleter tous ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. I'm calling the rain like never before. It won't heal no pain. I'm even ready for more. All that is great shall be floating away along with the shore. Whoa.
rain to clean up my shirt. I'm not afraid of all the sickness and hurt. All of the gray shall be floating away along with the shore. They call me the rain child. They call me the rain child. I crawl in my bones and blind in my sight, holding me down and holding me tight, feeling your love like a motherless child. Songs that I sang, all that is great shall be floating away along with the shore. All that is great shall be floating away along with the shore. They call me the rain shine. They call me the rain shine. They call me the rain shine. They call me the rain child. They call me the rain child. They crawl in my bones and blind in my sight, holding me down and holding me tight, feeling your love like a motherless child.
Child, c'était Gunwood sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On s'intéresse à ce qui se passe dans les étoiles, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau des nouvelles technologies et de ces objets connectés, intelligents, ces voitures qui roulent toutes seules, ces robots qui nous servent à tout. Et on s'intéresse aussi au niveau de la médecine, parce qu'au niveau de la médecine, il y a pas mal aussi de recherches scientifiques menées sur des pathologies assez lourdes. On parle très souvent du cerveau dans cette émission, on parle aussi du cancer. On parle également du sida, bien sûr. Et puis, parfois, dans cette émission, on s'intéresse à certains sujets qui, liés à la médecine également, et qui peuvent être... pour certains, de véritables bonnes nouvelles. C'est le cas notamment de cette araignée. Alors bien sûr, je vous parle d'araignée et tout de suite, vous allez vous dire « Ouh là 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 là, c'est pas génial !» Et notamment l'araignée qu'on appelle la Phenotria nigriventer. En fait, c'est ce qu'on appelle l'araignée banane parce qu'elle se cache souvent au milieu des régines de bananes. C'est une espèce d'araignée originaire d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud également. Elle est quand même assez grosse. Elle mesure 15 cm de long. C'est pas génial. Si elle nous mord, eh bien sa morsure, elle est vraiment douloureuse. Ça entraîne des œdèmes, une perte de contrôle musculaire, une paralysie, des dommages aux reins et au foie, ainsi qu'une détresse respiratoire qui peut aller jusqu'à l'asphyxie. Mon Dieu, c'est pas génial. Et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça en nous disant que ça peut être une bonne nouvelle pour certains? Eh bien, tout simplement parce que ce venin redoutable a pourtant un effet qui est particulièrement recherché. C'est le fait qu'il provoque un priapisme, en clair, des érections longue et parfois aussi quand même douloureuse. Et donc, dans une nouvelle étude publiée dans le The Journal of Sexual Medicine, donc ça veut tout dire, le journal de la médecine sexuelle, eh bien, il y a des chercheurs brésiliens qui ont trouvé un moyen de synthétiser l'une des molécules de ce venin responsable donc de ces érections. Et cette molécule, on l'a appelée la PNPP19, ne me demandez pas pourquoi. Et l'idée, c'était de pouvoir intégrer cette molécule dans un simple gel à appliquer directement sur la peau. Et cette molécule, la PNPP19, montre des résultats prometteurs en tant que nouveau traitement contre les dysfonctionnements érectiles. C'est ce que se réjouissent les chercheurs qui assurent que leur traitement est plus efficace que le Viagra, notamment pour les patients hypertendus et diabétiques, chez qui le principe actif du Viagra, le sildénafil, ne fonctionne pas. Et donc, la molécule qui est modifiée pour la débarrasser de ses effets toxiques agit pourtant sur le même ressort que celui qui est dans le Viagra, c'est-à-dire que cette molécule accentue l'effet du monoxyde d'azote dont la libération favorise le relâchement des muscles lisses du corps caverneux et entraîne un afflux de sang dans le pénis. Mais comme elle s'applique par voie dermique, c'est-à-dire qu'on l'applique directement sur la peau, elle ne cause pas les effets secondaires du Viagra. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vertige, de maux de tête, de troubles visuels et digestifs, et ça ne risque pas aussi de provoquer des interactions avec d'autres médicaments. Et donc les chercheurs sont parvenus à déclencher une érection avec donc cette molécule, une érection en moins de 20 minutes chez des souris, avec une augmentation de plus de 110% du flux sanguin vers le pénis et un gonflement de l'organe d'une durée d'environ une heure et aucun effet indésirable n'a été observé. Mon Dieu, c'est génial. Une précédente étude avait déjà montré qu'une autre protéine issue de ce venin, de cette fameuse araignée banane qui porte finalement très bien son nom, une autre molécule permettait une amélioration des érections chez les rats qui souffraient de lésions au niveau du corps caverneux. Alors en France, on trouve déjà une crème contre les troubles de l'érection à appliquer directement sur le pénis, et cette crème s'appelle Vitaros et elle contient aussi donc une autre protéine de ce venin de cette araignée, mais cette crème présente des effets secondaires comme des démangeaisons et des brûlures si on applique trop souvent cette crème. Oui, il faut quand même être aussi assez modéré, c'est comme tout, c'est à consommer avec modération. Et donc, on va pouvoir essayer de mettre en place un nouveau gel, une nouvelle crème avec cette autre molécule de ce venin d'araignée banane. Et on verra donc si ça sera un petit peu plus bénéfique avec un petit peu moins d'effets secondaires. C'est assez prometteur et ça va réjouir énormément de personnes. Je n'en pense pas moins, bien évidemment. Autre sujet, toujours au niveau médecine et santé, c'est une étude qui a été évoquée il y a quelques jours et qu'on évoque donc dans cette émission, celle du déclin du sommeil qui se fait au détriment de notre santé. C'est ce qu'alertent des médecins dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Agence sanitaire de santé publique en France, qui a donc été publié il y a quelques jours. C'était au mois de mars. Pour la première fois depuis que le sommeil est observé sur le plan épidémiologique en France, le temps de sommeil moyen nocturne est inférieur à 7 heures. C'est ce qu'écrivent des spécialistes dans l'une des études de ce bulletin qui était consacré spécifiquement au sommeil. En moyenne, donc, les personnes entre 18 et 75 ans, donc quand même une grande partie de la population, dorment 6h45 minutes chaque nuit. Ce temps de sommeil n'atteint que 6h34 minutes en semaine et lors des périodes de travail, alors qu'il est de 7h12 le week-end ou lors des périodes de repos comme les vacances. Même si l'on inclut les siestes, le temps moyen de sommeil quotidien reste donc inférieur aux 7 heures minimales habituellement recommandées pour une bonne récupération, ce qu'on en est donc au maximum à 6h55 minutes. Ces estimations sont basées sur le baromètre de santé publique France 2017, pour lequel plus de 12 000 personnes ont été interrogées. Plus d'un tiers des Français dorment moins de 6 heures. Or, on sait que, par de très nombreuses études notamment, on sait que dormir moins de 6 heures est associé à un risque plus élevé d'obésité, de diabète, d'hypertension, de pathologie cardiaque et d'accident. C'est ce que souligne dans ce bulletin le spécialiste du sommeil Damien Léger. Il s'appelle Léger comme son sommeil peut-être, et également le directeur général de santé publique François Bourdillon. Dormir moins de 6 heures réduit aussi la vigilance dans la journée, augmente l'irritabilité, perturbe les relations familiales ainsi que la qualité de vie et de travail. C'est ce qu'ils ajoutent en notant que ce déclin n'est pas une fatalité. l'une des causes de ce déclin préoccupant du temps de sommeil qui se répand partout dans le monde, c'est le travail de nuit. Le nombre de travailleurs de nuit habituels et occasionnels en France est passé de 3 à 4 millions en à peu près 20 ans. L'impact sanitaire associé à ces horaires de travail justifie la mise en place d'une veille sanitaire pour les travailleurs concernés. C'est ce que jugent les auteurs de cette étude. Les conséquences sanitaires du travail de nuit, à savoir davantage de maladies cardiovasculaires, d'accidents et pour les femmes de risque lors de la grossesse et du cancer du notamment. Tout cela a été confirmé dans un rapport de l'agence de sécurité sanitaire et du travail française. Enfin, une étude pointe un lien entre le tabagisme et la qualité du sommeil et suggère en fait de l'utiliser comme un argument nouveau pour inciter à l'arrêt du tabac. Les fumeurs quotidiens, qu'ils soient peu ou fortement dépendants, sont fréquemment des courts dormeurs, d'après donc cette étude. En outre, les fumeurs quotidiens, fortement dépendants, sont également nettement plus sujets à l'insomnie. Alors, plusieurs suggestions sont avancées pour redonner sa chance au sommeil. Parmi elles, la promotion de la sieste, y compris au travail, ou alors le recul du débit des cours pour les lycéens et les étudiants. Il y a notamment une expérimentation qui devrait être menée en région parisienne. Et quand on ne souffre pas d'insomnie, on peut aussi constituer des réserves pour affronter des périodes de restrictions lors des examens, lors du travail, lors de voyages, ainsi de suite, sans oublier bien sûr des règles simples. Dormir dans l'obscurité, bien sûr, à une température idéale de 18 degrés, et puis bien sûr sans sonnerie de téléphone portable. Et puis quand vous dormez, malheureusement, vous n'écoutez pas Graphite, mais c'est peut-être bon pour votre santé. En tout cas, voilà, les Français dorment moins de 7 heures par nuit. Et on s'inquiète sur les risques sanitaires que cela peut engendrer. Voilà, on va continuer à écouter un petit peu de musique, bien sûr, et on se retrouve après pour essayer de savoir, selon Bill Gates, quelles sont les 10 innovations qui vont changer le monde. Tiens, ça peut être intéressant. On va suivre ça, bien évidemment. Tout de suite, après, sur l'antenne de Graphite, j'appuie sur plein de boutons, ça fait du bruit, j'en suis désolé. Allez, à tout de suite.
Me.
Pixies, Fields and Ferris sur l'antenne de Graphite. C'était Pyjama avec l'album Nice to Meet You. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, l'émission de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. Et on va parler du progrès. Il y a deux sortes de progrès. Le progrès qui augmente la quantité de vie et le progrès qui augmente la qualité de vie. C'est ce qu'écrit Bill Gates dans son introduction au magazine MIT Technology Review. Au cours de l'histoire humaine, nous sommes d'abord focalisés sur la première, donc la quantité de vie. Aujourd'hui, que notre espérance de vie a doublé depuis 1913, eh bien notre attention se porte sur la deuxième. Et donc, c'est un petit peu ce qu'annonce Bill Gates. Et donc, il donne un petit peu des éléments pour lui qui sont un petit peu les 10 innovations susceptibles de changer la planète et la société. Et on va essayer de voir avec lui justement ce qu'il voit comme étant des innovations qui vont changer notre monde. Alors déjà, le nouveau nucléaire, totalement vilipendé par les écologistes, le nucléaire est pourtant une énergie d'avenir. C'est ce que croit Bill Gates, qui soutient d'ailleurs plusieurs start-up dans ce secteur, mais pas le nucléaire un peu old school, hein, comme celui des EPR. Le milliardaire mise en fait sur les petits réacteurs modulaires, ce qu'on appelle les SMR, qui présentent beaucoup moins de risques financiers et écologiques. Et les recherches sur la fusion nucléaire pourraient elles aussi bientôt aboutir, ce qui fournirait de l'énergie zéro carbone de façon quasi illimité. Autre sujet, les robots habiles. Si les robots actuels sont très doués pour effectuer des tâches répétitives sur une ligne d'assemblage, ils s'avèrent bien peu agiles pour manipuler individuellement des objets selon leur forme ou leur contexte, comme le font les humains. En alliant reconnaissance visuelle, algorithmes, robotique, eh bien les robots seront demain capables de faire aussi bien que, c'est ce qu'espère Bill Gates, qui cite l'exemple de Dactyl, une main robotisée mise au point par une association. Et pourquoi on pourrait avoir ça ? Eh bien, ça serait d'ici 3 à 5 ans, donc ça serait assez rapide. Autre chose, le vaccin personnalisé contre le cancer. Avec près de 10 millions de décès chaque année, le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires, selon les chiffres de l'Organisation mondiale pour la santé. Et parmi les centaines de nouvelles approches thérapeutiques, eh bien, celle de la start-up allemande BioNTech a retenu l'attention de Bill Gates. Cette start-up détecte les mutations dans les cellules cancéreuses et utilise le propre système immunitaire des patients pour mettre au point des vaccins visant ces mutations. Donc on est bien dans une idée d'avoir des vaccins vraiment personnalisés contre le cancer que l'on a dans notre propre corps. Pour quand mise en place ? Eh bien, c'est en cours d'essai, donc ça peut être assez rapide, nous dit-on. Autre innovation, la pilule endoscopique, ce qu'on appelle l'entéropathie environnementale. Bon, on n'en a peut-être jamais entendu parler. Cette maladie, qui se traduit par une inflammation de l'intestin et entraîne une malnutrition, cause un retard de croissance et du développement psychomoteur. Détectable uniquement par endoscopie, elle pourrait pourtant être mieux diagnostiquée grâce à une pilule électronique qu'on pourrait avaler et qui va donc pouvoir inspecter l'intestin et effectuer des biopsies. Ça a été mis au point par Guillermo Tarnet, qui est biologiste et ingénieur au laboratoire de l'hôpital universitaire de Boston. Et cette pilule électronique pourra également servir à traiter d'autres pathologies comme le cancer du côlon. Et donc les premiers tests sont également prévus cette année. Autre innovation, la viande sans viande. En 2050, la planète va compter presque 10 milliards d'habitants qui consommeront 70% de viande en plus qu'en 2005. Or, la production d'un kilo de bœuf nécessite 70 fois plus de surface, 8 fois plus d'eau et émet 3 fois plus de gaz à effet de serre que la production d'un kilogramme de soja. Et donc, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir fabriquer de la fausse viande qui serait essayée de cultiver avec des cellules souches ou alors à base de plantes. En tout cas, cette fausse viande fait l'objet de grosses ambitions de la part de plusieurs start-up. Et Bill Gates a notamment investi dans ces start-up pour pouvoir produire donc cette viande sans viande. Aujourd'hui, pour la viande végétale, eh bien, c'est déjà le cas. Et pour la viande artificielle, on prévoit cela pour l'année prochaine 2020. Autre innovation, et c'est vrai que ça peut être important, ce sont les toilettes sans égout. Les WC dans les pays en développement sont un des grands dadas de Bill Gates. Environ plus de 2300 millions de personnes n'ont aujourd'hui toujours pas accès à des sanitaires propres. C'est ce qu'il rappelle sans cesse et ce qui encourage les gens à aller faire leurs besoins en plein air, ce qui favorise bien sûr la propagation des maladies. En 2011, Bill Gates avait lancé le Toilet Challenge, appelant les innovateurs du monde entier à créer des toilettes low cost et autonomes. Il y a des dizaines de prototypes qui ont été présentés, donc qui pourraient être développés d'ici 1 à 2 ans. Autre innovation, les montres connectées qu'on va appeler ECG pour électrocardiogramme. En mai dernier, Apple avait annoncé fièrement que sa montre connectée avait sauvé la vie de 2 personnes en décelant un rythme cardiaque qui était anormalement élevé. La dernière version de l'Apple Watch est en effet équipée d'une fonction électrocardiogramme qui va analyser un petit peu les impulsions cardiaques. Alors néanmoins, les appareils actuels dotés d'un seul capteur ne permettent pas de détecter un AVC en temps réel, mais cela pourrait bientôt changer. Le fabricant américain LifeCore a présenté lors du dernier congrès de l'Association américaine de cardiologie un dispositif à 2 capteurs censé détecter certains types d'attaques. Et donc voilà, ça pourrait être développé assez rapidement, nous dit-on. Autre innovation, la capture carbone. Pour prévenir le réchauffement climatique, il faudrait enlever 1000 milliards de tonnes de carbone au cours du 21e siècle, selon les experts de l'ONU. Et donc, il y a quelques jours, des chercheurs australiens ont présenté une méthode pour capturer et convertir le dioxyde de carbone atmosphérique en carbone solide stockable. Bill Gates cite, lui, des start-up qui transforment ce dioxyde de carbone atmosphérique en biocarburant ou en gaz industriel. C'est encore coûteux et difficile, mais étant donné notre incapacité à réduire suffisamment nos émissions, il n'y a pas d'autre option. C'est ce qui explique Bill Gates, un peu fataliste sur ce sujet. Et donc, cette capture carbone, on peut la prévoir d'ici 5 à 10 ans, nous dit-il. Avant-dernière innovation, la prédiction des naissances prématurées. 15 millions de bébés naissent chaque année avant terme, dont 1 million vont mourir à la suite de complications, selon un rapport d'une 50aine d'organisations et d'universités. Demain, une simple prise de sang permettra de savoir si une femme risque un accouchement prématuré, c'est ce qu'assure Bill Gates. Il y a un chercheur de l'université de Stanford, il s'appelle Stephen Quake, qui a mis au point un test qui détecte l'expression de certains gènes qui sont associés à un risque de naissance prématurée. Les mères à risque pourraient ainsi être identifiées et prises en charge. C'est encore dans un stade de prototype et ça pourrait être développé d'ici 5 ans. Enfin, dernière innovation importante d'après lui, ce sont les assistants vocaux intelligents. Siri, Google Home, Amazon Alexa et ainsi de suite. Ces enceintes connectées ont été massivement adoptées aux États-Unis, mais leur capacité demeure pour l'instant assez limitée. La compréhension plus approfondie du langage humain combinée à l'amélioration des voix synthétiques permettra bientôt d'avoir une véritable conversation avec ses assistants vocaux. C'est ce qu'assure Bill Gates, qui cite notamment l'exemple de Google Duplex, capable de téléphoner pour prendre un rendez-vous à votre place. C'est assez effrayant et ça se fera d'ici 1 ou 2 ans, nous dit-il. Voilà les technologies du futur. Et donc, on se souviendra dans cette émission du 13 avril qu'on avait, grâce à Bill Gates, identifié les technologies qui vont totalement bouleverser notre quotidien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant il y a des choses qui peuvent être intéressantes, autant il y a quand même des choses qui sont assez effrayantes. On a l'impression qu'on va dans un monde qui va vite, très vite, trop vite peut-être. Il va falloir malheureusement pouvoir s'approprier et maîtriser. Ça va être un très bel enjeu, mes enfants. On va suivre tout ça, bien sûr. Allez, on continue à écouter un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite et on parlera ensuite de cette annonce qui concerne la cigarette électronique. On commence maintenant à avoir un petit peu plus de recul sur les effets et les dangers parfois de la cigarette électronique. C'est juste après ce titre de Tender sur l'antenne de Graphite. À tout de suite, vous écoutez Biotine. Sticks, searching for the power that don't exist. Tender sur l'antenne de Graphite avec Endman Ego, tiré de l'album Fear of Falling Asleep. C'est l'album, dernier album donc, de Tender, Fear of Falling Asleep. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. J'ai toujours la difficulté. En fait, pourquoi il y a toujours des titres en anglais alors que j'ai quand même vraiment des difficultés à parler en anglais? Il n'y a que ça. Soit dans les noms des revues scientifiques que je dois nommer ou dans le nom des groupes qu'on entend sur l'antenne de Graphite. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous écoutez donc le samedi, mais aussi le mardi matin à 10h pour la rediffusion de cette émission sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Vous fumez des cigarettes électroniques? Eh bien, l'étude des effets de ces cigarettes est relativement récente, tout simplement parce qu'elles sont apparues dans la dernière décennie aux États-Unis. Leur essor rapide a déclenché la panique chez les autorités sanitaires. Dans les lycées, le nombre d'élèves qui vapotent a augmenté de 78% en un an. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nombreuses substances cancérigènes des cigarettes, mais des chercheurs et des experts de santé publique s'interrogent sur les éventuelles conséquences du chauffage à haute température des produits qui sont contenus dans les cartouches liquides au-delà des pouvoirs addictifs connus de la nicotine. Et donc, dans une étude qui est parue suite à une réunion du Collège américain de cardiologie, eh bien, des chercheurs ont exploité des questionnaires de près de 100 000 personnes sur plusieurs années depuis 2014. L'idée, c'était de pouvoir récupérer certaines données avec une volumétrie quand même assez importante pour avoir quand même une quantité d'informations qui vont pouvoir ensuite permettre de faire des études. Et ce que l'on constate, c'est que le taux de crise cardiaque était supérieur de 34% chez les fumeurs de cigarettes électroniques comparé à ceux qui ne sont pas des vapoteurs. Et bien évidemment, en prenant en compte tous les facteurs de risque liés à l'âge, au sexe, à un indice de masse corporelle, le cholestérol, santé artérielle, tension et ainsi de suite, bien sûr, 34% supérieur pour les taux de crise cardiaque. Pour les maladies artérielles, la hausse était de 25%. pour la dépression et l'anxiété de 55%. Jusqu'à présent, nous savions peu de choses sur les événements cardiovasculaires liés à l'utilisation des cigarettes électroniques. C'est ce que dit le médecin Morinder Vinidal, qui est professeur à l'Université du Kansas et qui est donc l'auteur principal de cette étude. Ces données doivent être un signal d'alarme et déclencher des actes et une prise de conscience sur le danger des cigarettes électroniques. Les données montrent aussi que le risque chez les fumeurs de tabac comparé aux non-fumeurs était encore plus élevé. Ce genre d'études sont purement des observations et ne prouvent pas que le vapotage déclenche des maladies cardiovasculaires. Attention, ce sont juste des observations. Les chercheurs n'avancent d'ailleurs pas de mécanismes biologiques. On ne sait pas si c'est vrai et on ne sait pas si c'est vrai comment ça se mettrait en place. Il y a quand même d'autres études qui suivent des vapoteurs sur une longue durée qui vont être nécessaires pour essayer de comprendre un petit peu mieux si c'est juste une observation, juste un effet statistique ou s'il y a véritablement un lien. Mais on est dans le conditionnel, mais le vapotage entraînerait plus de maladies cardiaques et de dépression. Voilà, c'est cette dernière étude. C'est ce qu'on avait évoqué, je crois qu'il y a déjà maintenant quelques années, dans cette émission, il y avait tout de suite au début quelques études qui avaient été menées sur certains produits utilisés dans ces cigarettes électroniques. Et il y avait certains produits qui avaient été retirés du marché parce qu'on s'était rendu compte, notamment au niveau de l'utilisation des aldéhydes, que ça pouvait avoir des effets totalement néfastes. Donc là, on est plus maintenant dans du recul. Alors, on a plusieurs années justement de recul pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations et d'essayer de pouvoir commencer à lancer quelques études. Mais on est bien là encore au début des informations et on ne saura que beaucoup plus tard, et peut-être parfois beaucoup trop tard, les véritables effets de l'utilisation des cigarettes électroniques. Mais en tout cas, voilà, il y a une annonce de cette étude qui a donc été dévoilée il y a quelques jours aux États-Unis et qui a ensuite été relayée par différents communiqués de presse, bien sûr, parce que c'est un sujet majeur et vraiment important. Et donc là, du coup, il ne faut pas se leurrer, hein, Jérôme. On ne sait pas du tout les effets bénéfiques ou néfastes des cigarettes électroniques. C'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Donc, ben voilà. Écoutez, on suivra bien sûr cela dans cette émission. Allez, on va écouter un dernier titre et on terminera avec cette annonce qui concerne les ordinateurs et la fin annoncée des mots de passe. Les mots de passe vont disparaître. Ah, ça va être sympa parce qu'au bout d'un moment, on en avait tellement des mots de passe que c'était pénible, on ne savait plus lequel on devait utiliser pour tel ou tel site. Et bien là, maintenant, ça serait terminé apparemment. C'est ce qui nous a été annoncé il y a quelques jours. On suivra ça, bien sûr, juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. A tout de suite. Si je ne mets pas le son, ça ne va jamais réussir.
Nada.
Volver, c'était Tilassine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'est l'émission de l'actualité scientifique que vous propose Graphite. Pendant une heure chaque semaine, on s'intéresse un petit peu à l'actualité médicale, technologique, et là on va s'intéresser au l'informatique, je vais y arriver, pardon, parce que je suis en train de bugger tout simplement sur le nom encore anglais, il faudra que je dise le World Wide Web, le WWW Consortium, l'organisme principal qui gère les standards du web, et une association d'entreprises qui vise à sécuriser le web. Eh bien, ils viennent d'annoncer l'adoption de la spécification Web Authentication qui permettra de s'affranchir des mots de passe sur les sites web. Ces deux organismes se sont associés pour résoudre un problème de sécurité majeur, ces fameux mots de passe. Les internautes utilisent de nombreux comptes pour accéder aux différents sites web, chacun ayant son propre mot de passe. Devant la difficulté de créer autant de mots de passe différents et à les retenir, il arrive souvent qu'ils laissent ceux par défaut et qu'ils optent pour des mots de passe faciles à retenir, comme bien sûr le fameux 1, 2, 3, 4, ou bien encore qu'ils utilisent le même partout. Ils sont alors vulnérables à des attaques simples ou peuvent être récupérés en infectant l'ordinateur de la victime. Si la personne a utilisé les mêmes codes pour plusieurs comptes, ils peuvent être tous compromis. Il existe quelques solutions pour renforcer la sécurité, comme les gestionnaires de mots de passe ou l'authentification multifacteur avec par exemple un code de confirmation qu'on reçoit par SMS. Ça oui, ça peut être une bonne solution, mais cela ne suffit pas à long terme. Le nouveau protocole apporte une sécurité renforcée tout en simplifiant l'utilisation grâce en fait à l'élimination des mots de passe. Concrètement, en fait, il est composé de deux éléments. Tout d'abord, une authentification grâce à un système biométrique, comme par exemple un lecteur d'empreintes ou une caméra, mais également un appareil mobile ou une clé USB de sécurité qui peut être également utilisée. Et le second élément, eh bien, c'est une API qui permet notamment aux navigateurs et aux sites web d'échanger de manière sécurisée afin de s'identifier. Les navigateurs principaux avaient déjà anticipé l'adoption justement de ce nouveau protocole et par exemple Mozilla avait intégré l'API dans une version de son navigateur Firefox qui était sorti en mai de l'année dernière déjà. Google emboîtait le pas à peine quelques jours plus tard avec une nouvelle version de Chrome, Microsoft également, Apple et ainsi de suite. La standardisation donc justement de ce nouveau protocole, ce qui permet donc le système mise à disposition de tous les sites web d'apporter plusieurs avantages. Les identifiants sont uniques pour chaque site web. Il n'y a aucune information secrète qui est échangée. Il n'envoie ni mot de passe, ni données biométriques. Il n'est par conséquent pas possible de les obtenir par virus, notamment. Et même dans l'éventualité qu'un compte soit compromis, eh bien, cela ne donnerait aucun accès aux autres comptes de la victime. De plus, l'inscription crée un identifiant unique au site web. Cela améliore bien sûr le respect de la vie privée puisqu'il est alors impossible de suivre un utilisateur d'un site à l'autre. Enfin, le processus est très simple à mettre en œuvre et rapide à utiliser. Les sites doivent faire appel à ce protocole qui est donc standardisé. Les utilisateurs n'ont pas à saisir leur identifiant, leur mot de passe. Il leur suffit d'activer cette espèce de système d'identification, comme par exemple poser leur doigt sur un lecteur d'empreintes. Donc voilà, c'est l'avenir. Ça va être ça maintenant. On n'aura plus de mot de passe. On va directement avoir des capteurs qui vont tout de suite nous reconnaître. Une empreinte digitale, ça existe déjà bien sûr sur nos téléphones portables. Et donc là, au niveau de l'utilisation de certains sites internet, eh bien voilà, ça va être appelé à disparaître ces mots de passe qu'on avait tous écrits dans un petit carnet. Eh bien, on ne s'en souviendra plus tout ça. Ça sera du passé, ces fameux mots de passe. C'est ça l'avenir. On a parlé pas mal de médecine et on a parlé pas mal d'avenir dans cette émission de Biotine. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de science. C'est la semaine du printemps de Bourges qui démarre. Donc, on a écouté pas mal de titres dans cette émission depuis plusieurs années de découvertes du printemps de Bourges. Donc si vous vous trouvez à Bourges, profitez donc du festival du printemps de la chanson qui démarre, je crois, mardi, si je ne dis pas de bêtises. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Il n'y aura pas de trêve Pascal samedi prochain pour cette émission. On se retrouve samedi prochain pour encore nous intéresser à l'actualité scientifique. Je vous remercie de votre fidélité depuis tant d'années sur l'antenne de Graphite. À samedi prochain, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve sur le 94.9 pour la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Bonne journée, à bientôt.